Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 39e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Jean-Jacques Rousseau et la question « Y a-t-il une loi du plus fort ?» On connaît la moralité qui ouvre la célèbre fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Constat terrible que les enfants doivent admettre dès leur plus jeune âge avec ce qui est peut-être la première vraie poésie qu'ils apprennent par cœur. Mais existe-t-il une telle raison, ou même une simple loi du plus fort? Ne s'agit-il pas de quelque chose qui n'a rien à voir avec la loi et la raison et qui porte un nom tout contraire, le nom de violence? Rousseau n'a cessé de répéter que le prétendu droit du plus fort était aussi contradictoire qu'un cercle carré. En même temps, que serait un droit sans force? Et comment ne pas reconnaître que le droit coutumier s'est progressivement dégagé d'une fondation historique toujours sanglante? Il suffit de penser à la royauté qui sort de Clovis ou à la République qui jaillit de la Révolution. Écoutons donc ce célèbre passage du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau et examinons la solution que propose notre citoyen de Genève.
Du droit du plus fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort. Droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrait-ce être un devoir? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatias inexplicable, car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première, succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force. Il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances, si cela veut dire céder à la force, le précepte est bon, mais superflu. Je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue, mais toute maladie en vient aussi. C'est-à-dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin. Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois. Non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner? Car enfin, le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. Convenons donc que force ne fait pas droit et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes.
Fabrice Hadjadj, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit. Quel est le contexte de ce texte?
Alors, c'est un texte extrait de ce livre important, fameux, fondateur de Jean-Jacques Rousseau, qui s'intitule « Le contrat social ». On a vu la dernière fois un Rousseau intime, le Rousseau des confessions. Il y a un Rousseau romantique, celui des rêveries du promeneur solitaire, un Rousseau, on pourrait dire, qui cherche plutôt la société des amis, celui de la nouvelle Héloïse. Mais il y a aussi ce Rousseau, penseur, philosophe politique, qui commence d'ailleurs avec son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, c'est ça qui le rend célèbre, à Rousseau qui va donc donner des instructions finalement pour obtenir une société juste, et des instructions qui se veulent l'idée d'un renouvellement de la société à partir non pas de la coutume, de la tradition, mais à partir d'un projet politique, on pourrait presque dire d'une utopie politique déjà, où il faut rationaliser les institutions, où il faut reconstituer la société, balayer, on pourrait dire, tout le fatras des empilements historiques de différentes coutumes, etc., pour faire une société fondée sur la nature et sur la raison. En cela, bien sûr, il est dans la même logique que Diderot. Diderot qui dit, voilà, il y a une loi de la nature, il y a une loi de la société, il y a une loi de la religion, et ces trois lois sont sans cesse en conflit, d'après lui. Donc, il va falloir tout refonder à partir de la nature. Enfin, par exemple, c'est le discours de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville. Rousseau voit sa pensée, enfin, il a une sorte d'illumination lorsqu'il va voir Diderot qui est en prison à Vincennes. Et là, tout d'un coup, il se dit, voilà, les hommes naissent finalement bons, et ce sont les institutions donc l'histoire, d'une certaine façon, qui les asservissent. Et donc, il va falloir refonder la société sur des principes sains, naturels, rationnels. Et c'est le constat qu'il fait au tout début du contrat social, d'ailleurs. L'homme est né libre. C'est magnifique, cette phrase, vous allez voir. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Alors, comment ça se fait qu'un homme qui serait naturellement libre, naturellement bon, soit partout asservi et même devenu pervers, Et la suite est encore plus belle. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. La thèse de Rousseau, c'est que la domination même est servile. Quelqu'un qui est dans un rapport de force, et dont la relation à autrui est seulement une relation de domination par la force, est lui-même esclave de la force. Et lui-même quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser le registre de la force. Et lui-même celui qui va être renversé par une force plus grande. Donc attention, la pensée de Rousseau, ce n'est pas l'idée de dénoncer les puissants ici. Ce n'est pas de dénoncer les forts. C'est de dénoncer le système de la force, où même les puissants sont aliénés. Voilà.
Fabrice Hadjadj, cette idée que le plus fort doit gouverner est ancienne dans l'histoire de la philosophie, puisque dans le Gorgias de Platon, Calliclès propose déjà cette solution à la question de savoir qui doit gouverner la cité.
Oui, et d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, la force ici est présentée comme puissance physique. Dans le Gorgias, la force dont il s'agit, c'est celle de la rhétorique, oui. Et comme art de combat, mais art... Qui joue sur les esprits, qui joue donc « je suis plus fort parce que je suis capable de faire les discours les plus séduisants ». Et donc, il y a aussi cette force-là, qui n'est pas fondée sur la vérité, mais uniquement sur une force rhétorique.
Est-ce que, fondamentalement, ce que dit Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'en fait, cette force n'est jamais suffisamment forte, et donc, d'une certaine manière, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas suffisante pour fonder la société?
Alors, il y a une double critique. D'une part, la force n'est jamais assez forte, elle est jamais dessous, parce qu'une force se fait toujours renverser par une autre force. Donc ça, c'est la première argumentation. L'homme le plus fort ne l'est pas toujours, ne serait-ce que, et Rousseau en parle dans d'autres textes, parce qu'il y a un moment donné où il est fatigué, il doit dormir. Alors, comment je fais? Le sommeil, la nécessité du sommeil, me livre dans une vulnérabilité totale. Donc, il va falloir, de toute façon, que le plus fort s'associe avec quelqu'un d'autre qui va le garder durant son sommeil. Et encore faut-il que ce gardien ne profite pas, qu'il va s'associer, donc qu'il va le rendre proche de lui, puisqu'il va mettre auprès de son chevet, n'en profite pas pour l'assassiner. Donc il faudrait presque qu'il ait un autre gardien pour le garder du gardien, etc. Et donc on va voir que le fort est obligé d'établir un certain nombre d'alliances, justement de contrats, au moins, voilà, au nom de la force. Donc ça, c'est déjà le problème, une force finit toujours par être renversée par une autre force qui vient parce que nos forces déclinent ou parce que nous avons à dormir. Deuxième chose, et ça c'est l'autre point fondamental, c'est que la question qui entre, et il faut savoir de quoi s'agit-il, c'est la question du droit. Alors, le droit est d'une autre nature que la force, et ça n'est plus un rapport de force qui est en jeu, c'est une garantie, quelque chose qui va respecter les libertés de chacun, la dignité de chacun, la liberté de chacun. Alors que la force, par définition, méprise la liberté. Voilà. C'est uniquement si tu es le plus fort que je te donne un espace, mais sinon, tu n'as pas d'espace. Alors que là, le droit suppose qu'on reconnaît que l'homme est né libre. Donc la grande question, c'est la question de penser la liberté de l'homme et comment faire pour que cette liberté n'empiète pas sur la liberté des autres, ce qui est généralement le cas.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, y a-t-il une loi du plus fort ? Fabrice Adjadj, le texte que nous avons lu se termine sur le fait qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Mais alors, qu'est-ce qu'un pouvoir légitime si ce n'est pas la force ?
C'est pas... Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas la force qui fait la légitimité du pouvoir. Alors ça, il faut revenir à d'abord au contexte de la pensée de Rousseau. Il y a un arrière-plan qui est une autre pensée, on pourrait dire, du pacte social ou du contrat social. Hein. Rousseau emploie indifféremment les deux termes, qui est celle de Thomas Hobbes, dont on n'a pas parlé dans cette émission, alors que c'est aussi un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Pour Hobbes, il y a un état de nature. Alors, il faut comprendre que pour Rousseau et pour Hobbes, l'état de nature est un état fictif qui n'a jamais vraiment existé. Hein, on écarte les faits historiques, on pense une situation qui serait une situation originelle, une hypothèse de travail, pour penser dans l'ordre rationnel vraiment l'organisation sociale la meilleure. Donc, pour Hobbes, l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Chaque homme est une liberté, ça, il le reconnaît, Hobbes. Et chaque homme est une liberté, on pourrait dire, illimitée. Mais forcément, dès qu'un homme va désirer une chose, un autre aussi va la désirer, et ces hommes vont entrer en conflit. Et si ces hommes entrent en conflit, ça veut dire qu'ils vont forcément pouvoir s'entretuer, etc. Et donc, l'état de nature, c'est un état où tout le monde est menacé de mort violente. Et dès lors, la question qui va se poser, c'est comment faire pour ne pas mourir de mort violente. Et le pacte social va naître du fait qu'on va, on pourrait dire, sa liberté, renoncer au moins à une partie de sa liberté, pour instituer un souverain qui, lui, va avoir le monopole, on pourrait dire, de la force, de la violence, mais dont la tâche est d'assurer la sécurité. Donc voilà, dans un monde où il n'y a que des individus qui sans loi, qui sans choc, etc., on risque toujours de mourir de mort violente, eh bien je suis prêt, au nom du pacte social, à renoncer à une part de ma liberté pour obtenir en échange ma sécurité, ne pas mourir de mort violente. Donc on a une conception de l'État qui n'est pas tournée vers le bien commun, vers l'aspiration vers un bien commun, mais qui est plutôt la fuite devant un souverain mal, qui est la mort violente. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'associe ? Parce qu'on a peur de mourir de mort violente. Et ça vient constituer l'idée d'un roi, d'un souverain, qui aurait tout le pouvoir, le monopole de la violence, voilà, de la violence légitime. Et donc, on renonce à sa liberté pour obtenir sa sécurité. Et Rousseau dit, ça, c'est un contrat de dupe. Je veux dire, c'est accepter d'être esclave. Comment un homme peut-il renoncer à sa liberté ? Et même Rousseau dirait, l'idée que ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui, comme le disent beaucoup de modernes, vous voyez, où il faut un ajustement entre des libertés, ça encore, c'est un scandale pour Rousseau. Parce qu'en fait, l'homme est libre et doit rester libre tout en entrant en société. Et donc, sa grande question, c'est comment penser une entrée en société où le renoncement à ma liberté naturelle illimitée ne soit pas une aliénation, mais l'accès à une liberté, voire même une liberté encore plus grande. Donc, c'est ça le grand thème de Rousseau. C'est qu'on ne peut pas troquer sa liberté contre la sécurité. Et que l'homme doit rester... Il n'y a pas de plus précieux que la liberté. Donc, la question du droit, la question d'un pouvoir légitime, c'est la question d'un pouvoir qui garantit la liberté de chacun.
Simplement, pour comprendre, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin, l'état de nature de Rousseau n'est pas un état de guerre de tous contre tous, comme c'est le cas chez Hobbes, pourquoi est-ce qu'il y a la nécessité d'entrer en société ?
Alors, il y a deux discours de Rousseau concurrents. Il y a d'abord l'idée qu'au départ, c'était une sorte d'Arcadie avec des ressources... Voilà, où tout le monde pouvait avoir ce qu'il voulait en étant assez solitaire. L'homme et la femme s'unissaient, avaient des enfants, mais ils ne constituaient jamais une famille, il n'y avait pas de communauté, chacun, voilà, c'est le bon sauvage. Et puis qu'il y aurait un changement de l'axe de la Terre, une sorte de chicnaude ou une catastrophe qui aurait rendu les ressources plus rares, et donc les hommes ont dû se rassembler pour se défendre. Et donc il y a l'idée d'une entrée en société qui se fait par une contingence historique. D'où... autour du feu aussi, les rivalités, l'orgueil, la manière de vouloir l'emporter sur les autres, etc. Dès que les hommes se rapprochent, ils passent de l'être au paraître. Ils veulent être reconnus pour leurs apparences, ils veulent être meilleurs que les autres, etc. Et donc, tout d'un coup, des inégalités vont naître. Mais il y a une autre ligne qui est de dire que l'état de nature n'est pas un état réel, c'est une hypothèse de travail, et n'est pas non plus quelque chose auquel on devrait aspirer comme à un âge d'or. Ce n'est pas un âge d'or. L'homme est fait pour vivre dans l'état civil, dans une société. Simplement, la question pour Rousseau, c'est comment passer de cet état civil anarchique, lié à des oppressions, à des conquêtes successives, à un état civil qui est un état civil de justice, de reconnaissance d'égale liberté, d'égale dignité des différents hommes qui entrent. Non, ouais, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de l'égalité des hommes chez Rousseau. Donc, l'état de nature, il ne faut pas trop s'y arrêter chez Rousseau, comme si c'était quelque chose à laquelle il croyait. Chez Diderot, oui. Diderot, le mythe du bon sauvage, tend à devenir une réalité. Je pense que chez Rousseau, ce mythe est un mythe. En cela, je crois Rousseau plus raffiné, hein, franchement, dans sa pensée de ce point de vue-là. Même s'il n'est pas forcément Diderot est un écrivain aussi remarquable dans Le Neveu de Rameau, une vitesse d'écriture, quelque chose qui cavalcade, qu'on ne trouve pas chez Rousseau. Mais voilà, du point de vue de la pensée politique, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus sérieux chez Rousseau.
Et alors Fabrice, quelle solution va proposer Jean-Jacques Rousseau pour permettre à chacun de conserver sa liberté et néanmoins entrer en société ?
L'idée du contrat social, c'est l'idée qu'il n'y a pas des gens qui vont aliéner une partie de leur liberté au profit de l'un d'entre eux. Il essaye de penser une situation où tout le monde renonce à sa liberté individuelle et dès lors lui est rendu tout le monde. Donc il n'y a pas un souverain qui est institué, c'est le peuple tout entier qui devient souverain. Donc là, on a les grands thèmes de la République, de la démocratie, sachant que Rousseau ne dit rien à propos du pouvoir exécutif. Il peut penser, il peut y avoir un roi, il peut y avoir chez Rousseau, ce n'est pas la question. La question après de comment le pouvoir exécutif se met en ordre, mais d'abord la structure même de la fondation de la société, c'est que tout le monde renonce à sa liberté individuelle illimitée dans un contrat qui fait qu'en retour, il obtient une liberté qui est une liberté civile, mais ce n'est pas au profit de l'un d'entre eux. Ce n'est pas en instituant un souverain ou un roi, un monarque absolu, comme chez Rousseau, qui donnerait simplement la sécurité. Alors voilà comment il expose la chose. Il dit, cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes, « trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, donc protéger la sécurité. Et par là, mais il y a la deuxième clause, donc là on est chez Hobbes pour commencer, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Voilà, donc il faut que la force commune protège et en même temps que chacun reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Et donc l'idée c'est que tout cela n'est pas remis à quelqu'un, mais que c'est l'assemblée démocratique qui va produire une volonté générale. Voilà, il faudrait voir ce que ça veut dire. Hein. Donc chacun, par exemple, va participer à la votation. Il ne faut pas oublier qu'on est avec un Suisse ici. Hein. Donc le modèle, c'est un modèle voilà, démocratique, de votation. Tout le monde est là, on peut le voter. Et à la fin, au fond, non seulement parce que j'ai participé à l'élaboration de la loi, mais en plus parce que la loi qui va ressortir à partir du moment où chacun participe et reconnaît la valeur de ce qui va ressortir de ce corps collectif, eh bien, ce qui va en ressortir sera nécessairement, d'après Rousseau, une loi bonne. Alors là, c'est une chose très, très étonnante. Pourquoi est-ce que la loi devient automatiquement bonne ici ?
Est-ce qu'à la lumière du texte qu'on a vu la semaine dernière, on pourrait se dire que si l'ensemble de la communauté s'exprime, alors la loi sera sincère, même si elle ne sera pas forcément vraie ?
Alors oui, on retrouve ici, on pourrait dire, la primauté de la sincérité et de l'intersubjectif sur toute forme d'objectivité. Ça, c'est sûr. Et il y a une certaine cohérence, on pourrait dire, de la pensée de Rousseau. Mais moi, ma thèse, je dirais que Rousseau est à la fois, comme vous le disiez au début, tantôt rationaliste, tantôt romantique, tantôt croyant au contrat social, tantôt croyant au retour aux poètes solitaires dans les grottes, aux promeneurs solitaires. Vous voyez, c'est quand même étonnant. C'est le même auteur. Donc moi, je crois qu'il y a deux Rousseau qui ont existé en lui et que celui quand même des Confessions ou de la Nouvelle Héloïse, voilà, c'est un Rousseau plus personnel, hein, plutôt que celui, le réformateur politique. Et alors voilà, la thèse, hein, il va dire hein, que la volonté générale ne peut se tromper. Je vous lis un passage du chapitre 3 du livre 2. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci, la volonté générale ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre, la volonté de tous, regarde à l'intérêt privé. Ce n'est qu'une somme de volontés particulières. Mais ôter de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale. Et il va dire que la volonté générale est égale à ce que prononcerait la raison dans le silence des passions. La volonté générale est toujours... voilà, il y a des précautions qu'on doit prendre, mais en fait, pour pas qu'il y ait des factions, des groupes de pression, que chacun soit libre de voter, ça c'est la première chose. Mais une fois qu'on a fait ça, ça va équivaloir. Pourquoi ? Alors là, on est quand même à l'époque des Lumières, c'est-à-dire aussi d'une physique sociale... Où on l'a vu qu'il y avait un modèle hypothético-déductif, on fait l'hypothèse d'un état de nature pour essayer de voir quelle est la meilleure société, et là encore, il y a cette idée qui est liée, je dirais presque, au calcul vectoriel ou au calcul infinitésimal, qui est de dire, voilà, quand on est dans l'intérêt privé, chacun va voter. Il y en a un qui va voter dans un sens, mais l'autre va voter dans l'autre sens, à la limite même parce qu'ils ont des conflits d'intérêts. Donc l'un va tirer dans un sens, l'un va tirer dans l'autre, l'un va tirer dans un autre sens, voilà ça. Et en fait, vous voyez, tous ces vecteurs qui tirent dans des sens contraires vont s'annuler. Vous voyez, si on voit les différences du particulier, ça finit par s'annuler. Et il ne va rester, vous voyez, qu'une résultante qui est toujours celle de la droiture. Donc là, vous voyez, c'est un pari. Hein, vox populi, vox dei. Si chacun est entièrement libre dans sa votation, sans se laisser séduire par des coteries, par des idéologies, eh bien, à ce moment-là, il va peut-être voter en fonction de son intérêt, c'est pas ce que dit Rousseau, mais les intérêts mutuels, vous voyez, vont aller dans des sens différents. Et si on a reconnu qu'il était mieux de vivre ensemble et qu'on a accepté de renoncer à sa simple liberté individuelle pour avoir cette loi en retour qui va être le résultat de la somme de ses intérêts, cette volonté générale, qui n'est pas la résultante n'est pas simplement l'addition. Hein, vous voyez, la résultante, c'est une autre nature, et elle va être au-dessus. Et donc, il y a une sorte de mystique démocratique hein, chez Rousseau, l'idée que cette volonté générale équivaut à la volonté divine. Quoi.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Jean-Jacques Rousseau, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.